Saint Jean Eudes, priez pour nous. Nous venons d'invoquer ce saint, car il est aussi un précurseur, de certaine manière, du message que le Seigneur a voulu transmettre à l'Église par l'intermédiaire de Marguerite Marie, ici à Palais-Monial. Et donc, je vais vous proposer d'écouter un peu l'enseignement de ce grand père et docteur, en même temps, de l'Église. Je vais essayer de vous proposer quelques étapes, justement, durant cet enseignement. D'abord, une petite introduction, et ensuite, l'itinéraire de la vie de cet homme, Jean Eudes, qui l'a conduit vers une découverte, mais aussi un approfondissement de plus en plus grand du cœur de Jésus, uni intimement au cœur de Marie, sa maman, sa mère. Ensuite, essayer de voir en quelques mots comment il comprend le mot cœur, l'essence qu'il donne. Ensuite, ce en quoi consiste la vie chrétienne selon lui, qui est justement faire place en nous à Jésus, qu'il vive en nous. Et enfin, nous allons voir ce qu'il nous dit de cette union extraordinaire entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Alors, comme introduction, je pensais à un petit témoignage de Marguerite Marie, qui dit ceci, et elle écrit ça un jour de la fête du cœur de la très sainte Vierge, après la sainte communion, notre Seigneur me fit voir trois cœurs, dont celui qui était au milieu paraissait très petit et presque imperceptible. Les deux autres étaient tout lumineux et éclatants, dont l'un surpassait incomparablement l'autre. Et j'entendis ces paroles, « C'est ainsi que mon pur amour unit ces trois cœurs pour toujours. » Les trois n'en firent qu'un. Cette vue me dura assez longtemps et m'inspira des sentiments d'amour et de reconnaissance qu'il me serait difficile d'exprimer. Je ferme la citation. Alors les sœurs visitandines qui vont commenter un peu les écrits de Marguerite Marie précisent ceci. Ces deux cœurs lumineux sont évidemment les sacrés cœurs de Jésus et de Marie. Et le plus petit, celui de notre bienheureuse qui s'y allait abîmer. Fin de citation. Certains d'entre nous, peut-être, sont un peu confus parce que nous avons entendu et même vu, en fait, l'image d'une autre vision que Marguerite Marie a eue aussi dans le monastère et aussi pendant la Sainte Communion, qu'on appelle aussi vision des trois cœurs, mais qui concerne en fait Claude la Colombière, qui venait lui donner la communion, donc, et auquel Marguerite Marie ne faisait pas encore complètement confiance, mais à travers cette vision différente, en fait, de ce que je viens de vous dire là, ici, eh bien, le Seigneur voulait en fait, l'inciter, l'encourager à se confier pleinement à lui. Alors, il y a un tableau juste en haut de la chasse de Saint-Claude, la Colombière, ici, à Palais-Monnaie, dans sa chapelle, qui représente cela. Mais ce sont deux visions différentes. Je voulais vous préciser cela. Alors, pourquoi je me suis permis de commencer ainsi? Parce que Marguerite Marie parle justement d'une fête du cœur de la très sainte Vierge. Donc, que les sœurs de la Visitation célébraient. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fête? Une fête, donc, qui était célébrée avant même la fête du cœur de Jésus qui a été demandée par le Seigneur lui-même pour l'Église universelle. Eh bien, il s'agissait justement d'une fête qui était approuvée par l'évêque d'Autun, de l'époque, Monseigneur de la Madeleine de Ragny, qui avait approuvé, autorisé la célébration dans tout ce diocèse le 20 janvier 1648, à la demande d'un certain Jean Eudes, qui, peu de temps après, est venu faire une mission. Je reviendrai tout à l'heure peut-être un peu. Et à la fin de la mission, c'est l'évêque lui-même qui, le 8 février 1648, a célébré cette fête du cœur de Marie. Alors, à cette occasion, Saint Jean-Eudes, le père Jean-Eudes, qui en était donc à l'origine, a fait imprimer à autant même les deux offices du Saint-Cœur et du Saint-Nom de Marie. Et donc, ce livret, qui contenait aussi d'autres prières mariales, devait être entre les mains des visitants dignes de Paray-les-Moniales, donc, voilà, au moment où ils célébraient cette fête du cœur de Marie, ainsi que la messe, l'office qui était composé par lui. C'est pour ça que Marguerite Marie connaissait cette fête. Alors, c'est pour dire que bien avant elle, donc en 1948, elle avait quoi? Même pas un an, Marguerite Marie. Elle était à peine née, quoi. Hein? Bien, une fête du cœur de Marie se célébrait ici comme pour, je dirais, anticiper la formation aussi, la préparation de ce cœur de Marguerite Marie, aidée par la Vierge Marie, qu'elle-même aimait énormément, hein, à recevoir un jour des révélations plus grandes. Et je pense que c'est important pour nous, voilà, déjà personnellement et puis ensemble, de toujours nous tourner vers la Vierge Marie qui va nous conduire mieux que quiconque, en fait, vers un accueil de plus en plus, je dirais, réaliste et plus profond du cœur de Jésus. Et c'est ce que Jean Eudes avait compris et qui donc avait préparé la célébration de cette fête qu'il avait demandé à l'Église, comme il a voulu le faire aussi un peu plus tard, en demandant à ce qu'une fête en honneur du Sacré-Cœur soit aussi célébrée. Et je vais donc vous parler de lui, de cet homme, Jean Eudes, qui est connu plutôt comme le fondateur des eudistes, vous voyez, le père eudiste. Il est représenté aussi sur la fresque de la chapelle des Apparitions. Il a été canonisé en 1925, le même jour que Jean-Marie Vianney, par le pape Pie XI. Mais à ce moment-là, dans la célébration de la canonisation, le pape a repris ce que déjà Pie X avait dit un peu avant de lui, en le nommant l'auteur du culte liturgique des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie. Et puis, c'est une expression donc de Pie X du 6 janvier 1903. Et le 11 avril 1909, ce même pape le nomme père, docteur et apôtre de la dévotion au Sacré-Cœur, avec un S au pluriel. Père, docteur et apôtre. En effet, il est connu aussi comme étant le premier théologien du Sacré-Cœur de Jésus. Alors après, les enseignements que vous avez pu avoir, hein, concernant l'histoire du culte du Sacré-Cœur, depuis l'enseignement de l'Écriture, les pères de l'Église, les grands mystiques, voilà, nous allons essayer de découvrir un peu le rôle de cet homme. Bien sûr, chronologiquement, on aurait dû parler plus de François de Sales, hein, qui était aussi un précurseur, bien sûr, de ce culte, mais nous allons laisser voilà, la présentation de sa figure plutôt demain, le même jour, en même temps, hein, que la présentation de Sainte Marguerite Marie. Alors, je vais commencer par la première partie, après cette introduction, sur l'itinéraire de Saint Jean Eudes. Qui est cet homme? Alors, je vais m'inspirer largement d'une présentation qui est faite sur la page de la Congrégation des eudistes, que vous pouvez aussi trouver sur l'Internet, bien sûr, où il y a plusieurs articles comme ça, plusieurs présentations qui sont magnifiques. Je vous envoie là, aussi à cette source. Jean Eudes est un homme du XVIIe siècle, né le 14 novembre 1601, mort le 19 août 1680, quand nous allons d'ailleurs, nous avons aujourd'hui encore sa fête. Il a vécu donc durant ce qu'on appelle le grand siècle, mais en fait, ce n'était pas un grand siècle pour tout le monde. D'une part, à l'intérieur, la France connaissait de manière très forte des misères, des disettes, révoltes durement réprimées, des impôts, des épidémies, des troubles intérieurs qui la minent. Dès l'enfance de Louis XIII, et aussi le travail pacificateur de Richelieu, qui va prendre le pouvoir en 1624, qui en fait sera aussi un travail répressif. C'est aussi le temps des frondes chez les grands, sous Mazarin, fronde du Parlement aussi, fronde des princes. C'est aussi un monde d'ordre, fortement hiérarchisé, un peu dans tous les aspects de la société. L'avènement de Louis XIV va inaugurer le règne sans partage d'un monarque absolu qui va se prolonger jusqu'en 1715. Alors ce roi soleil, véritable chef de tout un corps mystique que forme son royaume, exige de tous ses sujets fidélité et hommage sans faille. À l'extérieur de la France, les guerres qui débouchent certes sur des victoires et des traités, mais ce sont des guerres longues, la guerre de 30 ans contre les Habsbourg, par exemple, dont le coût est, comme toujours, très élevé. Donc, en fait, ce grand siècle, ce n'est pas le siècle très grand pour tout le monde. C'est un contexte aussi qui nous fait comprendre que la découverte du cœur de Jésus par Saint Jean Eudes, eh bien, commence d'abord par la confrontation avec tant de dureté. Et cela va s'exercer chez lui dans une sorte de défense, en fait, des gens écrasés, ce qu'il va appeler avec force les indéfendus. Ceux qui n'ont pas de défense. Et aussi, cela va développer chez lui une attitude pastorale qui va l'inciter à la puiser de plus en plus au mystère inouï de la miséricorde. Alors il disait ceci, « Et miséricordieux, celui qui porte dans son cœur la misère des misérables. » Alors, ce qui va influencer aussi son action, sa spiritualité, c'est aussi justement cette imposante structure hiérarchique de l'ordre social et politique, et aussi sûrement religieux, mais qui sera déconstruite par un symbole très puissant et qui deviendra aussi populaire, le cœur, où l'accès au monde de l'amour divin est également offert et garanti à tous. Alors, lui, il ne sera pas nécessairement un génie spéculatif extraordinaire, mais il va sentir de tout son instinct pastoral que la charité sera toujours d'un autre ordre que celui des esprits et des corps, que celui de la société très hiérarchisée comme ça. Il est donc né en Normandie, un Normand authentique, disent ses confrères. Né à Ry, près d'Argentan, mort à Caen, il va aller de l'Orne, en Calvados, un peu comme plus tard la petite Thérèse, qui ira d'Alençon à Lisieux. Il est issu de la moyenne paysannerie. C'est un homme du terroir, plutôt économe, un organisateur pointueux, qui ne s'intéresse pas beaucoup aux choses très importantes de la culture normande. Il est très minutieux comme ça. Mais c'est surtout quelqu'un, un Normand, qui n'a dit que oui. Durant mes 3 années à Rouen, j'entendais parfois comme réponse Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais cet homme a dit toujours oui. Et il est encore aujourd'hui très séduisant comme saint et comme maître spirituel, parce que nous découvrons en lui un témoin passionné de l'Évangile. Alors, il a dû être sûrement touché de cette parole dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 19 et 20, où il s'agit de Jésus lui-même qui n'a dit que oui. En lui, il n'y avait pas oui et non, c'était oui. Cette petite formule résume effectivement ce que l'on voit à l'œuvre chez lui de façon de plus en plus patente, et ce qu'on touche presque du doigt. Il s'agit d'une progression, d'une véritable conversion, un décentrement de soi, une croissance dans la grâce, disponibilité de plus en plus dépouillée, de plus en plus effective aux appels de Dieu. Dire oui en ce sens, ce sera toujours dire en fait chercher en tout la volonté de Dieu. C'était un peu son point le plus important. Alors du coup, sur le terrain religieux, ce chrétien, ce spirituel, eh bien, il va bénéficier bien sûr aussi de toutes les richesses de ce grand siècle des âmes, où il y avait aussi une conquête mystique en fait. C'était aussi la grande école française de spiritualité qui prenait naissance, duquel lui-même a fait partie, bien sûr. Alors, il connaissait aussi les affrontements fréquents avec les protestants et aussi avec les jansénistes. Et cela, souvent, a été pour lui une source d'épreuves relativement cruelles, il le dira d'ailleurs. Et de façon générale, on découvre en fait que sa vie publique n'a jamais été facile. De nombreuses cabales ont été montées contre lui. Il a rencontré sur sa route des adversaires puissants. Ses projets ont été souvent contrariés. Mais il va toujours rester sans amertume. De même que du côté des hommes, Jean-Eudes, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, va se dilater de plus en plus dans le sens de la miséricorde. Et de même envers Dieu, chez lui, au cœur même des pires difficultés, va dominer une attitude d'action de grâce de plus en plus prononcée. Alors ce Normand qui n'a dit que oui est un homme qui tout au long de sa vie va se laisser faire par la grâce de Dieu et il va s'ouvrir au cœur de Dieu. Alors pour dire les éléments importants de sa biographie, les pères udistes ont pensé que c'est bien de prendre comme guide, comme ça, ce qu'on pourrait appeler un journal de bord. En fait, c'est un petit fascicule qu'il nous a laissé et qu'il a rédigé lui-même au fil des années et qu'il a nommé « Mémorial des bienfaits de Dieu ». Et alors, on peut reconstituer un certain itinéraire spirituel de Jean-Eudes jusqu'au cœur de Jésus à partir de ses propres notes. Alors, je vais essayer de parcourir rapidement, comme ça, de vous en donner 9 étapes importantes pour nous faire comprendre qui était cette grande personnalité. Première étape, la découverte du mystère de Dieu. Lui-même écrit ceci. « Étant dans une paroisse où il y avait très peu d'instructions pour le salut et où très peu de personnes communiaient plus souvent qu'à Pâques, j'ai commencé à l'âge de 12 ans environ, à connaître Dieu par une grâce spéciale de sa divine bonté et à communier tous les mois après avoir fait une confession générale. » Tous les mois, confession générale. C'était une vraie confession, ça veut dire. Et ce fut en la fête de la Pentecôte qu'il me fit la grâce de faire ma première communion. Ensuite de quoi, il me fit aussi la grâce, peu de temps après, de lui consacrer mon corps par le vœu de chasteté, dont il soit à jamais béni. Alors, qu'est-ce qu'on voit là ? Un jeune garçon qui découvre le mystère de Dieu, sa présence, qui est saisi comme ça par la présence du Seigneur, et qui décide à être fidèle, donc régulier, au sacrement de l'Église. Et puis aussi, de consacrer sa propre vie d'une manière très, très discrète. Il ne donne pas beaucoup de détails. Hein. Voilà, il voulait se donner à Dieu, quoi. 12 ans. Et donc, on comprend déjà ici, comme il le dit, hein, qu'en fait, il reçut cela comme une grâce, en fait. Il est très conscient de cette intervention de Dieu dans sa vie depuis ce moment-là. Et il ne va jamais oublier ce Dieu de sa jeunesse, en fait. Et donc, quand il va parler même du cœur, eh bien, il ne va jamais oublier d'inscrire voilà, cette découverte du mystère de Dieu dans l'histoire de sa vie, dans le temps, en fait. Parce que le Seigneur se révèle à nous aussi dans le temps, petit à petit. On a chacun d'entre nous une histoire à nous. On peut se rappeler peut-être le jour où voilà, nous avons découvert tout d'un coup cet amour de Dieu ou sa présence, ou peut-être l'essentiel de la foi, Jésus est vivant, qui a bouleversé complètement notre cœur. Bon, si ce n'est pas encore le cas, c'est jamais trop tard. Hein, de réaliser comme ça, prendre une conscience très, très, très vive de la présence de Dieu en nous. Et donc faire mémoire aussi voilà, de tout cela. Et alors il va comprendre en fait que sous la grâce, si on vit toujours en présence du Seigneur, il est interdit de vieillir. Interdit de vieillir. Car on ne s'habitue pas à Dieu. C'est pour cela que c'est important de faire mémoire. Voilà. Une deuxième étape, il découvre le mystère de l'incarnation. J'ai été reçu et suis entré dans la congrégation de l'oratoire en la maison de Saint-Honoré à Paris par son fondateur, le révérend père de Bérulle, l'an 1623, le 25 de mars. 25 mars. Vous savez ce que nous fêtons. Eh bien, c'est vraiment ce mystère de l'incarnation qui a marqué toute sa vie, en fait. Donc, l'Oratoire de France a été en effet créé par Bérulle en 1611. Et donc, là, il va apprendre de son grand maître spirituel plusieurs choses, mais il y en a trois qui sont vraiment très importantes et décisives. Premièrement, peut-être une évidence, mais enfin, il faut quand même le dire, l'homme est une créature. C'est-à-dire qu'il est radicalement dépendant de Dieu. Et là, ici, c'est vraiment le fondement de toute sa doctrine. L'homme se néant capable de Dieu est donc apte à l'adorer, à l'aimer, à le servir, à le connaître. Donc la dépendance de Dieu, ce n'est pas du tout quelque chose qui serait contre la dignité humaine, quoi. Au contraire. Deuxième chose importante qu'il apprend chez Bérulle, Jésus, entrant dans le monde comme fils, est à lui seul un monde, et un monde nouveau. Et cela aussi va saisir le cœur, et va nourrir toute la spiritualité de Jean-Eudes. Il va comprendre que Jésus est le parfait adorateur du Père, comme dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, reprenons le psaume 39. C'est vraiment un texte clé pour lui. Il va s'en inspirer plus tard quand il va composer les prières et notamment l'ouverture de la messe du Sacré-Cœur de Jésus. Jésus qui entre dans le monde comme un parfait adorateur du Père. Troisième élément important, la vie chrétienne consiste à continuer et accomplir toutes les dimensions du mystère filial de Jésus. C'est-à-dire que chaque chrétien est appelé à donner forme à ce mystère, à former Jésus en soi. Et ce sera justement le quatrième point de mon enseignement tout à l'heure. Laisser Jésus vivre en nous, en fait. Et Jésus vient en chacun, mais d'une façon très personnelle, en fait, hein, et donc du coup unique. Personne ne ressemble à personne. Hein. Chaque chrétien continue et accomplit le mystère de Jésus avec un monde d'une manière nouvelle, hein, et unique, quoi. Alors, c'est bien cela, le mystère de l'incarnation, où la vie chrétienne a sa source et le fondement en même temps. Donc, cette date du 25 mars va marquer la vie de Jean-Eudes plusieurs fois. Il y a eu plusieurs événements importants qui se sont déroulés en ce jour-là. Mais voilà, tout ce qu'il va célébrer plus tard, hein, du cœur de Jésus et du cœur de Marie, ou plutôt l'inverse. Hein. C'est d'abord le cœur de Marie et ensuite le cœur de Jésus va rester donc à jamais marqué par cette ferveur des commencements, hein, en ce point précis où le mystère de Dieu s'inscrit dans la chair et dans le corps de l'humanité. Comment s'étonner que Jésus soit pour Père Eudes le nom tout simple qui résume tout. Il va dire toujours « cœur de Jésus », il ne va pas dire « cœur du Christ ». Alors évidemment, entre Jésus et Christ, vous allez dire « mais c'est quand même la même personne hein ». Cependant, au niveau théologique, au niveau spirituel aussi, quand on parle de Jésus, on a en tête justement toute l'histoire de l'homme Jésus, hein, Jésus de Nazareth, vous voyez, ce mystère de l'incarnation. Alors évidemment qu'on ne peut pas séparer Jésus du Christ, hein, parce qu'on ne peut pas séparer Dieu et la foi des hommes. Voilà. Mais c'est important de respecter pour lui-même cet emploi insistant du nom de Jésus chez Jean Eudes, voilà, qui est un signe de l'intuition spirituelle chez lui, comme dans un chemin d'histoire et de foi sans équivoque. Le Jésus de l'histoire, c'est vraiment le Jésus de notre foi, le Jésus vivant et régnant aujourd'hui encore dans le cœur de tous les baptisés. Au point que le Concile Vatican II le dira beaucoup plus tard, hein, ce Dieu Fils nous a aimés avec un cœur d'homme. Une expression que vous entendez et qu'on entend souvent, parce que c'est vraiment, voilà, bien sûr, le message principal aussi de Paray-Lémonial. La troisième étape de sa vie, en 1632, je fus employé aux missions dans le diocèse de Coutances, à laisser à Perrier, à Saint-Sauveur le Vicomte, à la Haie du Puy, à Cherbourg, à Montebourg. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par cette mention très brève et très précise? En fait, il va découvrir l'Évangile comme une puissance divine de salut. Alors, il était ordonné prêtre le 20 décembre 1625. Et ce jeune père Eudes va commencer à ce moment-là une extraordinaire activité de mission. D'abord dans l'oratoire, comme oratorien, et ensuite comme fondateur de sa propre congrégation. Il ne donnera pas moins de 117 missions avec ses confrères jusqu'en 1676. 44 années sur la brèche, jusqu'à ses 75 ans, à pied, à cheval, en voiture de l'époque, bien sûr, en Normandie, en Bretagne, dans l'Île-de-France, en Bourgogne. Donc ce n'est pas un hasard si la plus grande partie du mémorial, donc ce journal qui nous a laissé, relate précisément ces missions données partout. Ce n'est pas étonnant non plus si les constitutions primitives des eudistes vont octroyer une très large place à ces exercices des missions. Il s'agit de quoi? S'il est vrai que chaque chrétien doit continuer et accomplir la vie de Jésus, il faut le lui dire, le lui montrer, le lui rappeler. Le renouvellement de la vie chrétienne passe par une catéchèse sur le vrai visage de Dieu révélé dans l'Évangile et par l'appel inlassable à la conversion. C'est pour ça qu'il proposait la conversion sacramentelle à un prêtre, comme un sommet de chaque mission. Jean-Eudes se fait donc prédicateur et confesseur infatigable. On va dire de lui que c'était un lion en chair et un agneau au confessionnal. Très attentif à la vie concrète et quotidienne des personnes, puisque c'est là, par ailleurs, que se joue leur salut. C'est exactement ce qui nous est répété sans cesse par notre cher pape François. C'est la fête, ça fait aujourd'hui d'ailleurs. Le Seigneur nous sanctifie dans notre quotidien et pas en dehors ni à côté, quoi. Et pour donner force au qualificatif qui rassemble ces divers aspects, il signera d'ailleurs bientôt fièrement ses lettres, Jean Eudes, prêtre-missionnaire. Et bien c'est justement au milieu même de cette intense activité missionnaire qui va se forger de plus en plus fortement l'idée de rassembler sous le symbole du cœur tout ce qu'il découvre et tout ce qu'il prêche de l'amour de Dieu. On va voir un peu plus tard, tout à l'heure, que c'est justement à la fin d'une mission comme je le disais tout à l'heure déjà, hein, que sera liturgiquement célébrée pour la première fois dans l'Église la fête du cœur de Marie. La quatrième étape, en 1637, la découverte de la vocation durable du baptisé. Cette année-là, Jean-Eudes fait paraître « Vie et royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes », un livre qui aura grand succès et connaîtra plusieurs rééditions de son vivant. Je peux vous le montrer, là. Voilà, il est édité à Vannes, celui-ci, en 1905. Très précieux, un trésor que les sœurs de la Visitation ont bien daigné me le prêter et que je dois le rendre. D'ailleurs, ben oui, donc je ne peux pas vous le prêter, vraiment un trésor. Alors, il va publier ce livre, pourquoi? Il a 36 ans, il est ordonné depuis 11 ans, et on peut dire qu'est venu pour lui l'heure d'une première mise en forme spirituelle de ses découvertes de prêtre missionnaire. Dans tous ses périples, qu'est-ce qu'il a découvert? Puisque l'incarnation s'inscrit dans la vie des baptisés, tous les baptisés, quel que soit leur état de vie, doivent mener tout au long de leur existence la vie sainte de Jésus, vie et royaume. Et donc, d'abord, un magnifique plaidoyer en faveur du baptême, ce sacrement somptueux. Et, comme il dit, si oublié de nos jours, on dirait qu'il parle aujourd'hui, le baptême si oublié de nos jours encore. Par ce porche royal, c'est toute la vie chrétienne qui est revisitée sous le signe de ce mystère du temps auquel nous l'avons vu. Jean-Eudes est si sensible. Puisque le temps nous est donné, il n'y a pas de temps à perdre. Durer dans notre condition humaine, c'est identiquement durer dans notre vocation chrétienne. Chaque instant compte. Dans la vie comme dans la mort, le baptisé appartient à Jésus. Il peut et il doit, là où il est, se faire participant de ses états et mystères. États et mystères. Les continuer, les accomplir. Et c'est cela, en fait, l'essence de tout agir chrétien, la vie authentique de celui qui est baptisé. Alors, je reviendrai sur ce point tout à l'heure pour le développer un peu plus. La cinquième étape, en 1641, l'inscription de la miséricorde. Il va fonder Notre-Dame de Charité du Refuge. Et il dit ceci. En cette même année 1641, Dieu m'a fait la grâce de commencer l'établissement de la maison de Notre-Dame de la Charité le jour de la conception immaculée de la très sainte Vierge. Deo gratias. Alors, au cours de ses missions, le Père a rencontré nombre de femmes et de jeunes filles meurtries par l'existence, battues, abandonnées, livrées à la prostitution. Alors, après le temps des découvertes, vient pour lui celui des fondations. C'est pour cela que Notre-Dame de Charité, ce nouvel institut, qui au début était modeste et très laborieux, mais qui sera pour ces femmes un véritable refuge, un havre de paix et de miséricorde où une vie humaine digne de ce nom pourra se recomposer lentement. Jean-Eudes tient tellement à cet aspect des choses qu'il invente pour les sœurs appelées à rejoindre l'Institut un quatrième vœu. Vous connaissez les trois, hein? Pauvreté, chasteté, obéissance. Et bien, le quatrième, il va l'intituler le vœu du zèle du salut des âmes. Alors, il a toujours dans le cœur voilà, cette intention hein, d'élargir son regard en direction de tous les indéfendus, comme je le disais tout à l'heure. Son dernier livre, Le cœur admirable de la très sacrée Mère de Dieu, contient un passage comme celui-ci. Mère de miséricorde. Regardez tant de misères, tant de pauvres, tant de captifs et tant de prisonniers, tant d'hommes qui sont persécutés par la malice des hommes, tant d'indéfendus, tant d'esprits affligés, tant de cœurs angoissés. La sixième étape, en 1643, il déploie ce charisme de fondation, de fondateur, mais aussi de formateur. Il dit ceci. En cette même année, donc 2 ans avant, donc 1641, Dieu me fit la grâce de former le dessin de l'établissement de notre congrégation dans l'octave de la Nativité de la Sainte Vierge. Et il écrit un peu plus tard, en l'an 1643, donc, notre Seigneur et sa très sainte Mère nous firent la grâce, par un excès de bonté, de commencer l'établissement de notre petite congrégation le 25 de mars, jour auquel le Fils de Dieu s'est incarné et la Sainte Vierge a été faite Mère de Dieu. La congrégation se nomme précisément de Jésus et de Marie. Alors, ces deux extraits du mémorial évoquent donc cette grande fondation de Père Eudes, l'autre, la deuxième, hein, importante. Donc, il faut se souvenir que durant toute sa vie apostolique, il a voulu célébrer à la fois la grandeur du baptême et celle de la prêtrise, découverte l'une et l'autre auprès de Bérulle. Aucune concurrence, bien évidemment, entre les deux. Aux yeux du Père Eudes, c'est précisément afin que les baptisés mènent une existence digne de la suite de Jésus qu'il faut à leur service, avec eux et pour eux, des, dit-il, pasteurs selon le cœur de Dieu. L'expression a de la force et Jean-Eudes la développe avec vigueur. Il veut des prêtres qui soient par tout leur ministère, je le cite, une image vive de Jésus-Christ en ce monde et de Jésus-Christ veillant, priant, prêchant, catéchisant, travaillant, allant de ville en ville et de village en village, souffrant, agonisant, mourant et se sacrifiant lui-même pour le salut de toutes les âmes créées à son image et à sa ressemblance. Eh bien, vous pouvez demander toutes ces grâces pour nous, les prêtres, hein. Merci beaucoup. En d'autres termes, il dit ceci, en fait, hein, pour qu'il y ait des chrétiens mieux formés et plus conscients de leur grâce baptismale, il faut aussi, à l'Église, des prêtres mieux formés et plus aptes à remplir leur fonction pastorale. Donc, cette double perspective éclaire la décision que Jean Eudes commence à concevoir donc, en 1641 et qui va traduire dans les faits 2 ans après, en fondant cette congrégation nouvelle, ce qu'on appelle les udistes, dont les membres seront destinés à la fois aux exercices des missions et aux exercices des séminaires. Alors son coup de génie en fait, et d'audace en même temps, c'est bien celui-là. Les formateurs sont aussi des évangélisateurs, et réciproquement. Tels sont les vrais pasteurs selon le cœur de Dieu pour lui. Alors l'existence chrétienne telle qu'elle continue et accomplit la vie de Jésus ne se divise jamais. La 7e étape, le 8 février 1648, l'institution de l'office et de la messe du cœur de Marie. Donc Jean-Eudes a maintenant 47 ans, il garde toujours au cœur de Dieu de sa jeunesse, il garde toujours au cœur le Dieu de sa jeunesse, hein, et il a déjà derrière lui une intense activité de prêtre et de missionnaire. Le secret de sa vitalité, de sa soif de prêcher, bien sûr, c'est l'amour. Mais tel qu'il peut maintenant commencer à en lire de façon plus mûre la source et les effets. C'est cet amour de Dieu, aux deux sens du génitif, hein, déjà si souvent contemplé dans la prière et si souvent mis en œuvre par la pratique apostolique, que le Père Eudes va maintenant ressaisir avec émerveillement sous l'angle de la disponibilité, de la gratitude, de la miséricorde, des traits très liés à la Vierge Marie. Donc, il y pense dans sa tête déjà depuis 1941, et puis aussi en 1643, depuis la fondation de sa congrégation des prêtres. Il circule déjà un office en honneur du cœur de Notre-Dame. Mais voilà que c'est en 1648, à la fin de la grande mission donnée ici à Autun, qu'il va concentrer toutes les découvertes déjà engrangées dans un grand trésor, qui est le cœur de Marie. C'est ce qu'il décide de faire imprimer ses offices et la messe, hein, dont je parlais tout à l'heure, pour un culte liturgique et public. C'était une grande première dans l'Église, dont Jean Eudes lui-même se sent à la fois confus et fier. Alors, je vous dirai deux, trois mots sur ce rôle de la Vierge Marie aussi dans sa vie et dans la vie de chacun d'entre nous, tout à l'heure. La huitième étape, le 20 octobre 1672, il va dire ceci: « J'ai presque toujours été dans les croix, parmi lesquelles la divine bonté m'a fait tant de grâces que je pourrais dire je suis rassasié et j'en ai plus de consolateur. Et en même temps, je me réjouis dans toutes mes tribulations. Il y a beaucoup de chiens qui m'ont encerclé, en fait. Mais Père, pardonne-leur. » Voilà, c'est note dans le mémorial. Alors, Jean-Eudes est maintenant septuagénaire. Il vient de passer une année difficile où épreuves et adversités ont été ses compagnes de route. Quand il dit « j'ai presque toujours été dans les croix », on comprend bien qu'il a beaucoup souffert, en fait. Mais il est désormais capable de tout transmuer en action de grâce. Et voici enfin qu'il met en forme liturgique, c'est-à-dire festive et publique, comme un trésor confié à tout le monde, ce secret qui l'a guidé et soutenu tout au long de sa vie et qui lui apparaît maintenant en toute clarté. Il dit « Tout est donné dans le cœur de Jésus, cette fournaise de charité, ce lieu absolument unique et absolument repérable entre tous, où Dieu révèle aux hommes l'immensité d'un amour sans rivage et où les hommes deviennent à leur tour capables de venir se loger. » Parce qu'il dit qu'il y a la place pour tous dans le cœur de Jésus. Afin d'aimer Dieu filialement en allant jusqu'au bout de leur force vive. Alors, cœur de Jésus, c'est le lieu d'un amour révélé. Parce que Dieu n'est plus un Dieu caché. En ce XVIIe siècle qui finissait, à l'heure où Dieu se voile en Occident, comme le disait un auteur, Jean Eudes vient de retrouver un symbole très fort, universel, pour parler aux petits et aux grands de l'amour infini exposé au grand jour. Enfin, la neuvième étape, aujourd'hui, dit-il, 25e de juillet de la même année 1680, Dieu m'a fait la grâce d'achever mon livre du cœur admirable de la très sacrée Mère de Dieu. C'est la fin de son mémorial parce qu'il est mort justement peu de temps après, cette même année. Donc Jean Eudes est un vieil homme, il a encore quelques 4 semaines à vivre. Face à la mort qui vient, il a eu la force de boucler, on peut dire, cet énorme livre qui paraîtra en 1681, donc après sa mort. Un livre qui est assez compliqué, mais qui déborde d'amour et de lyrisme, qui s'appelle ainsi « Le cœur admirable de la très sacrée Mère de Dieu ». Donc, j'ai déjà cité 2-3 passages, qui est comme une synthèse, en fait, une véritable somme d'un développement considérable, même si l'intérêt toujours n'est pas le même quand on le lit. Mais ce livre est un chant, un testament, un monument émouvant jusque dans ses longues et dans ses longueurs et même ses lourdeurs. C'est une sorte de « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. » Voilà. C'est comme un chant de reconnaissance envers Jésus et Marie. Alors voilà quelques traits de sa vie, de son histoire, de son chemin. Maintenant, de tout cela, je vais vous proposer de nous arrêter rapidement sur 3 points importants. D'abord, qu'est-ce que pour lui, ce serait un peu la deuxième partie maintenant, beaucoup plus brève, bien sûr, le sens du mot « cœur », ces gens, il parle en fait de ce mot en l'utilisant en l'envisageant sous 3 aspects. Premièrement, quand il parle du cœur de Jésus, il parle d'un cœur corporel, c'est-à-dire l'organe vraiment de son corps, quoi. Pour lui, il s'agit du très saint cœur de son corps déifié, fournaise d'amour divin, qui est uni d'une manière hypostatique, donc c'est substantiel, à la personne du Verbe, embrasé des flammes de son amour infini par nous. Alors, c'est dans la logique de l'incarnation. Jésus, qui était un vrai homme, mais il avait vraiment un cœur réellement humain, avec cette dimension-là, corporelle d'abord, qui bien sûr devient un symbole de l'amour ensuite. Et c'est ce corps, ce cœur charnel qui a souffert aussi humainement et qui a été aussi brisé. Et vous avez entendu aussi l'enseignement de Saint Gertrude et d'autres mystiques concernant cette réalité humaine du corps de Jésus et de son cœur. Mais à partir de ce cœur corporel, comme dit Saint Jean Eudes, eh bien, il voudrait le proposer comme ce cœur de chair, quoi, comme un symbole d'un amour et qui devient aussi justement le symbole de ce culte aussi, qui sera le culte au cœur de Jésus. Cœur corporel, premièrement. Deuxième sens qu'il utilise, c'est le cœur spirituel. Toujours, donc, vous voyez, dans cette humanité de Jésus, comme nous, on est un corps et un esprit, enfin, corps et âme. En Jésus aussi. Donc il avait aussi un cœur spirituel. Qu'est-ce que c'est que ce cœur spirituel de Jésus? C'est la volonté de son âme sainte. La volonté. La faculté purement spirituelle dont le propre est d'aimer ce qui est aimable et de haïr ce qui est haïssable. Alors, ce cœur spirituel, pour lui, donc, comprend la partie supérieure de l'âme sainte du Verbe incarné, c'est-à-dire sa mémoire, son intelligence, sa volonté. Donc, c'est toute cette vie intérieure que chacun d'entre nous peut expérimenter. Mais donc, aussi, Jésus a pu ressentir intérieurement, voilà, ces battements, on peut dire, ces sensations, ces émotions d'ordre spirituel. Mais Jean Eudes aussi ne s'arrête pas que là, il relie à ce cœur spirituel aussi l'agir, et même l'obéissance de Jésus à son Père, une obéissance aimante et salvifique, parce que c'est grâce à son obéissance, humainement parlant aussi, qu'il a pu nous obtenir le salut. Alors il dit à un moment donné, ce divin sauveur a tellement sacrifié sa volonté humaine à son Père, que jamais il ne l'a fait en terre et que même il ne la fera jamais dans le ciel. Or, c'est pour l'amour de nous que cet aimable Jésus a renoncé à sa propre volonté pour opérer l'œuvre de notre salut. Alors, à partir de là, Jean Eudes aussi a bénéficié d'un enseignement de François de Sales qui dit qu'en fait, le grand cœur de Jésus en fait, s'étend jusqu'à l'Église qui est son corps. L'Église a un cœur qui est contenu dans le cœur de chacun de ses membres, en fait. Donc le chef et les membres forment ensemble le Christ total. Et il y a un passage dans les Actes des Apôtres qui est cité par François de Sales, qui a beaucoup inspiré Jean Eudes, et qui dit ceci: si les premiers chrétiens furent dits n'avoir qu'un cœur et qu'une âme, à cause de leur parfaite et mutuelle dilection, si saint Paul ne vivait plus lui-même, mais Jésus-Christ en lui, à raison de l'extrême union de son cœur à celui de son maître, par laquelle son âme était comme morte à son cœur, qu'elle aimait pour vivre dans le cœur du Sauveur qu'elle aimait, combien est-il plus véritable que la Vierge n'avait qu'une âme, qu'un cœur et qu'une vie avec son Fils. Donc c'est quelque chose que nous pouvons expérimenter aussi. Ce cœur spirituel de Jésus bat dans le cœur de l'Église, en fait, voyez. Alors, Jean Eudes explique cela surtout par rapport à ce que le Seigneur a souffert dans son agonie au Jardin des Oliviers. Le cœur spirituel, pour lui, c'est le cœur agonisant de ce médiateur qui nous manifeste son amour en obéissant à son Père dans la douleur. Bon, je vais m'arrêter ici. Il a de magnifiques passages justement sur ce que le Seigneur lui-même a supporté, enfin a vécu dans ce jardin durant son agonie. Alors, enfin, troisième dimension, le cœur divin de Jésus. Mais il s'agit justement de l'amour personnel du Fils unique pour le Père et en même temps l'amour qu'en commun avec le Père et l'Esprit, ce Fils porte au genre humain. Donc dans le cœur divin de Jésus, il y a cet amour un, mais qui est double pour le Père et aussi envers nous. D'une part, dit saint Jude, son cœur divin qu'il a de toute éternité dans le sein adorable de son Père, n'est qu'un cœur et un amour avec le cœur de l'amour et l'amour de son Père. Et avec le cœur et l'amour de son Père est le principe du Saint-Esprit. À raison de quoi ? Lorsqu'il nous a donné son cœur, et ça c'est quelque chose de très important et très beau, il nous a aussi donné le cœur de son Père et son adorable Esprit. Donc quand Jésus nous aime, ben, il ne nous donne pas que son amour à lui, quoi. C'est tout l'amour du Père qui est là et qui nous est donné, comme il le dit dans la fin du chapitre 17 de saint Jean. Et puis d'autre part, d'ordinaire, Jean-Eudes désigne sous le nom de cœur divin de Jésus l'amour essentiel qui s'identifie avec l'essence divine et en a toutes les perfections. Et c'est cet amour qui est commun d'ailleurs aux trois personnes divines, hein, qui va devenir l'objet du culte du Sacré-Cœur pour lui. C'est-à-dire qu'il ne fait pas du tout une séparation entre l'amour et la personne du Fils. Alors ici, c'est un théologien, hein, donc il essaye d'expliquer cela avec une grande profondeur, et ce n'est pas le lieu de vous présenter toute sa théologie, justement aussi trinitaire, hein, concernant cet amour du cœur divin de Jésus. Mais nous allons en voir au mois de décembre, hein, le responsable des pères eudistes qui viendra nous enseigner pendant tout un week-end justement sur la spiritualité et la doctrine de Jean-Eudes. Donc je vais m'arrêter pour l'instant ici, simplement en rajoutant une chose importante dans cette pensée, dans cette spiritualité de Jean-Eudes. Il a compris quelque chose de très très fort. Il dit à un moment donné que parce que cet amour nous est donné en fait, cet amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père dans l'Esprit Saint, l'amour du Fils vers son Père est à moi. Et il dit, enfin, il commence une sorte de prière en disant ceci: Père Saint, je vous dois un amour, des louanges, des adorations, des actions de grâce et des satisfactions infinies. Et je me dois moi-même à vous par une infinité de raisons. Je n'ai point de moi-même de quoi payer toutes ces dettes. Je suis en dette envers vous, je dois vous aimer totalement, mais je ne peux pas en fait, parce que je ne suis pas infini. Donc, j'ai rien et je suis rien. Mais voilà le cœur de votre Fils bien-aimé que vous m'avez donné, lequel je vous offre pour satisfaire aux obligations que j'ai de vous adorer, de vous aimer, de vous rendre grâce, de vous satisfaire pour mes péchés, de me donner à vous et de vous prier, par ce même cœur, de m'accorder toutes les grâces dont j'ai besoin. Recevez-le. Et ayez pour agréable de vous payer par vos mains. C'est très profond, vous voyez. Et c'est cette intuition de Jean-Eudes qui va marquer aussi l'histoire, ensuite, par la suite, de cette spiritualité du Sacré-Cœur qui nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est pour dire quoi? Qu'en fait, le culte du cœur de Jésus, pour lui, est inséparable et incompréhensible en dehors du mystère de la Trinité et de ces deux missions du Fils et de l'Esprit. Alors, je vais maintenant résumer cette partie avec une dernière citation de lui. Le triple objet, on peut dire hiérarchisé, du culte envers le cœur de Jésus qu'il va proposer, c'est ceci: nous avons trois cœurs à adorer dans notre Sauveur, qui ne sont néanmoins qu'un seul cœur par l'union étroite qu'ils ont ensemble, évidemment. Parce que Jésus n'a pas trois cœurs séparés, quoi. Ça fait un seul. Trois cœurs, dans cet admirable homme-Dieu, ne sont qu'un cœur parce que son cœur divin était l'âme, le cœur et la vie de son cœur spirituel et de son cœur corporel. Il les établissait dans une si parfaite unité avec lui que ces trois cœurs ne sont qu'un cœur très unique, rempli d'un amour infini au regard de la très sainte Trinité et d'une charité inconcevable à l'égard des hommes. Alors, je vais m'arrêter ici sur l'enseignement de Jean-Eudes sur le mon cœur, parce qu'il y a quelque chose de très beau aussi qu'il nous propose, dans quelques minutes, voilà. Je vais vous parler de son désir, en fait, de proposer aux chrétiens, je vais insister sur ce point dont je parlais tout à l'heure, la formation de Jésus en nous. Alors, comme il s'inspire beaucoup de saint Paul, il n'a pas tout commenté, mais il s'est arrêté à quelques passages, voilà, de saint Paul et saint Jean aussi, qu'il a longuement ruminé, expliqué, médité et proposé aussi aux chrétiens. Il dit ceci à un moment donné, dans la vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes. Le mystère des mystères est l'œuvre des œuvres. C'est la formation de Jésus qui nous est marquée en ces paroles de saint Paul. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. C'est le plus grand mystère, la plus grande œuvre qui se fasse au ciel et sur la terre par les personnes les plus excellentes de la terre et du ciel, c'est-à-dire par le Père éternel, par le Fils et par le Saint-Esprit, par la très sainte Vierge et par la Sainte Église. Alors, pour le redire dans un langage peut-être un peu plus actuel, le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 521, va citer justement Jean Eudes sur ce point précis. Parce qu'en fait, vous voyez, il dit, le but et tout le sens de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est vraiment laisser toute la place à Jésus en nous. Nous avons identifié à lui, en fait. Pas seulement vivre pour lui, pas seulement vivre avec lui, mais vivre en lui. Et inversement, le laisser lui vivre, prendre sa place, être formé en nous. Vous voyez? Donc, catéchisme 521. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous est comme notre modèle. Il nous y fait communier comme les membres de son corps. Nous devons continuer et accomplir en nous les états et les mystères de Jésus. Les états et les mystères. Les états, ça veut dire toute cette vie intérieure, vous voyez, ses sentiments, ses désirs, sa propre connaissance, voilà, toute cette vie intérieure. D'ailleurs, on parle souvent d'état d'âme. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'âme? C'est quelque chose qu'on ne peut pas définir facilement. Eh bien, c'est vraiment toute cette vie intérieure, vous voyez. Et les mystères de Jésus incluent aussi, voilà, les actions, l'agir, hein, les miracles, enfin voilà, tout ce qu'il a pu vivre, en fait. Donc nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus. Et le prier souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous et en toute son Église. Par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ces mystères. Et par ce moyen, il veut les accomplir en nous. Vous avez noté, hein, catéchisme, quel numéro ? 521. Ça vaut la peine de le reprendre et le méditer un peu, parce que, à la différence d'autres mystiques, enfin d'autres pères spirituels, d'autres maîtres spirituels aussi, ben voilà, Jean-Eudes se dit, ben, en fait, dans la vie spirituelle, il ne faut pas trop se compliquer, en fait. Un Ignace, un saint Ignace de Loyola, va considéré toute la vie comme orientée vers la fin. Donc, tout pour la plus grande gloire de Dieu. Il faut arriver. Voilà. On garde toujours en mémoire l'objectif final. François de Sales va présenter les choses autrement dans l'introduction à la vie dévote et le traité de l'amour de Dieu. Mais lui, Jean-Eudes, il dit, en fait, il faut laisser Dieu habiter en nous. Et cela n'est pas possible qu'à cause de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire dans une offrande totale à cet Esprit de Jésus. Et je vais vous citer ceci pour terminer ce point. Il dit ceci. Je trouve que c'est très beau, c'est très simple. C'est toujours dans le royaume de Jésus. La pratique des pratiques, écrit-il, le secret des secrets, la dévotion des dévotions, c'est de n'avoir point d'attache à aucune pratique ou exercice particulier de dévotion. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire il faut faire ceci, il faut faire cela, et il ne faut pas mettre les gens dans les cases, vous voyez. Mais d'avoir un grand soin dans tous vos exercices, quels qu'ils soient, vos pratiques de piété, quoi. Avoir un grand soin de vous donner au Saint-Esprit de Jésus, afin qu'il ait plein pouvoir et pleine liberté d'agir en vous selon ses désirs, de mettre en vous telle disposition et tel sentiment de dévotion qu'il voudra, et de vous conduire par les voies qui lui plaira. Bon. Moi, je pourrais résumer ceci. Si vous voulez que votre temps de prière soit parfait, eh bien, vous invoquez l'Esprit-Saint sans cesse. Si vous passez une heure, il y a la cofondatrice de la communauté d'Emmanuel qui disait, si vous passez une heure d'adoration en appelant l'Esprit-Saint, votre heure de prière, d'adoration sera parfaite. Vous méditerez là-dessus, c'est vraiment le secret de notre vie en fait, parce que cet Esprit-Saint qui vient prendre possession de nous, c'est l'Esprit d'amour, c'est l'Esprit de Jésus, il jaillit du cœur de Jésus et il met tout ce qu'il y a dans son cœur, dans notre cœur à nous, vous voyez, et qui nous fait vivre ainsi. Alors, comme maintenant une sorte de conclusion, la personne qui a vécu à merveille et parfaitement justement cette union, c'est qui? C'est la Vierge Marie. Alors, en Marie, bien sûr, elle aussi, dans son cœur corporel, son cœur spirituel et son cœur divin, qu'il dit, eh bien, elle a essayé de laisser vivre parfaitement le cœur de son fils, en fait. Et il disait qu'entre le cœur de Jésus et de Marie, il y a comme une dépendance, parce qu'en effet, au point de vue naturel, Jésus a voulu dépendre en tout de la très sainte Vierge Marie. C'est dans son sein qu'il s'est incarné, c'est dès qu'elle a reçu le corps, son corps même. Voilà, donc Jésus a voulu être même dépendant de sa maman. Donc du coup, il y a une dépendance mutuelle entre les deux. Mais aussi, il y a une conformité. C'est-à-dire que l'abondante communication que Jésus a fait à sa mère, Marie, de cet esprit saint qu'il animait, en même temps que la docilité qu'il a apportée, qu'elle a apportée de son côté, à se laisser conduire par lui, a eu comme résultat d'établir entre le cœur du fils et celui de la mère une admirable conformité. Les pensées, les affections, les vertus, les joies, les douleurs du cœur de Jésus devinrent celles du cœur de Marie. Je me permets de citer pour voir à quel point, comment il voit cette union, de cette conformité. Le cœur n'est-il pas le principe de la vie? Et qu'est-ce que le Fils de Dieu est dans sa divine mère, où il a toujours été et sera éternellement, sinon l'esprit de son esprit, l'âme de son âme, le cœur de son cœur, et le seul principe de tous les mouvements, usages et fonctions de sa très sainte vie. Qui peut douter qu'il ne soit vivant dans sa très précieuse mère? Si déjà saint Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, d'autant plus elle peut dire ça. Qui peut douter qu'il ne soit vivant dans sa très précieuse mère, qu'il ne soit la vie de sa vie et le cœur de son cœur? C'est magnifique. Le cœur de Marie, c'est Jésus. Alors, il va citer aussi Sainte Brigitte, mais que vous avez dû avoir déjà, je ne vais pas insister. Et un troisième aspect dans cette union, c'est évidemment l'union d'amour. Ce n'est pas seulement une habitation, voilà. C'est une, on peut dire même une fusion d'un amour de Jésus pour Marie, mais aussi un amour de Marie pour Jésus. Et l'un des principaux effets de cet amour mutuel est précisément cette union du cœur de Marie à celui de Jésus. Et je vais m'arrêter là-dessus en vous citant encore Jean Eudes. Cet amour très ardent du cœur de Marie l'unit avec son fils Jésus d'une union si forte et si merveilleuse que la mort qui a rompu l'union très étroite de l'âme sainte et du corps adorable de Jésus n'a pu avoir aucune attente sur l'union inviolable qui est entre ce divin sauveur et sa très chère mère. Quand la cruelle lance du soldat inhumain perça le côté et le cœur de Jésus pendant qu'il était suspendu sur la croix, elle ne causa aucune douleur à son âme, car il n'était plus dans son cœur ni dans son corps, la mort l'en ayant séparé. Mais la lance transperça l'âme de sa bienheureuse mère et la navra d'une plaie très sanglante et très douloureuse, car son amour la tenait unie au corps et au cœur de Jésus. Oh, qu'il est bien vrai que l'amour est plus fort que la mort, puisque la mort peut bien séparer l'âme de Jésus d'avec son corps, et que l'amour unit si intimement le cœur et l'âme de Marie avec Jésus, que la plus cruelle de toutes les morts ne peut les en séparer. Alors, c'est cela aussi qui a sûrement influencé, bien sûr, la spiritualité réciproquement ensuite de Sœur Visitandine, au point qu'à un moment donné, pour faire la transition avec demain, les enseignements qui seront donnés demain, la dévotion au cœur de Marie va s'exprimer de plusieurs façons dans le diocèse ici, dans l'ordre de la visitation. Et Marguerite Marie elle-même dira un jour à ses novices en 1685, « Ô divin cœur de Jésus vivant dans le cœur de Marie, je vous conjure de vivre et de régner dans tous les cœurs et de les consommer dans votre pur amour. » Merci.